Chapitre 8. Son duel avait fait passer du roi au nombre des chroniqueurs de tête de la vie française. Mais comme il éprouvait une peine infinie à découvrir des idées, il prit la spécialité des déclamations sur la décadence des mœurs, sur l'abaissement des caractères, l'affaissement du patriotisme et l'anémie de l'honneur français. Il avait trouvé le mot « anémie » dont il était fier. Et quand Madame de Marelle, pleine de cet esprit gouailleur, sceptique et gobeur qu'on appelle l'esprit de Paris, se moquait de ces tirades qu'elle crevait d'une épigramme, il répondait en souriant « Bah, ça me fait une bonne réputation pour plus tard. » Il habitait maintenant rue de Constantinople, où il avait transporté sa malle, sa brosse, son rasoir et son savon, ce qui constituait son déménagement. Deux ou trois fois par semaine, la jeune femme arrivait avant qu'il fût levé, se déshabillait en une minute et se glissait dans le lit, toute frémissante du froid du dehors. Duroy, par contre, dînait tous les jeudis dans le ménage et faisait la cour au mari en lui parlant agriculture. Et comme il aimait lui-même les choses de la terre, ils s'intéressaient parfois tellement tous les deux à la causerie qu'ils oubliaient tout à fait leur femme sommeillant sur le canapé. Laurine aussi s'endormait tantôt sur les genoux de son père, tantôt sur les genoux de belle amie. Et quand le journaliste était parti, M. de Marelle ne manquait point de déclarer avec ce ton doctrinaire dont il disait les moindres choses « Ce garçon est vraiment fort agréable, il a l'esprit très cultivé. » Février touchait à sa fin. On commençait à sentir la violette dans les rues en passant le matin auprès des voitures traînées par les marchandes de fleurs. Duroy vivait sans un nuage dans son ciel. Or, une nuit, comme il rentrait, il trouva une lettre glissée sous sa porte. Il regarda le timbre et il vit « Cannes ». L'ayant ouverte, il lut « Cannes, Villa Jolie. Cher monsieur et ami, vous m'avez dit, n'est-ce pas, que je pouvais compter sur vous en tout? Eh bien, j'ai à vous demander un cruel service, c'est de venir m'assister, de ne pas me laisser seul au dernier moment de Charles qui va mourir. Il ne passera peut-être pas la semaine, bien qu'il se lève encore, mais le médecin m'a prévenu. Je n'ai plus la force ni le courage de voir cette agonie jour et nuit. Et je songe avec terreur au dernier moment qui approche. Je ne puis demander une pareille chose qu'à vous, car mon mari n'a plus de famille. Vous étiez son camarade, il vous a ouvert la porte du journal. Venez, je vous en supplie, je n'ai personne à appeler. Croyez-moi votre camarade toute dévouée, Madeleine Forestier. » Un singulier sentiment entra comme un souffle d'air au cœur de Georges. Un sentiment de délivrance, d'espace qui s'ouvrait devant lui. Et il murmura « Certes, j'irai, ce pauvre Charles. Ce que c'est que de nous, tout de même. » Le patron, à qui il communiqua la lettre de la jeune femme, donna en grognant son autorisation. Il répétait « Mais revenez vite, vous nous êtes indispensables. » Georges Duroy partit pour Cannes le lendemain par le rapide de 7 heures, après avoir prévenu le ménage de Marelle par un télégramme. Il arriva le jour suivant, vers 4 heures du soir. Un commissionnaire le guida vers la Villa Jolie, bâtie à mi-côte, dans cette forêt de sapins peuplée de maisons blanches qui va du Canet au golfe Juan. La maison était petite, basse, de style italien, au bord de la route qui monte en zigzag à travers les arbres, montrant à chaque détour d'admirables points de vue. Le domestique ouvrit la porte et s'écria « Oh, monsieur, madame vous attend avec bien de l'impatience. » Duroy demanda « Comment va votre maître ?»« Oh, pas bien, monsieur, il n'en a pas pour longtemps. » Le salon où le jeune homme entra était tendu de perses roses à dessins bleus. La fenêtre, large et haute, donnait sur la ville et sur la mer. Duroy murmurait « Bigre, c'est chic ici comme maison de campagne. Où diable prennent-ils tout cet argent-là » Un bruit de robe le fit se retourner. Madame Forestier lui tendait les deux mains. « Comme Comme vous êtes gentil. Comme c'est gentil d'être venu. » Et brusquement, elle l'embrassa. Puis ils se regardèrent. Elle était un peu pâlie, un peu maigrie, mais toujours fraîche. Et peut-être plus jolie encore avec son air plus délicat. Elle murmura « Il est terrible, voyez-vous. Il se s'est perdu et il me tyrannise atrocement. Je lui ai annoncé votre arrivée. Mais où est votre mal ?» Duroy répondit « Je l'ai laissé au chemin de fer, ne sachant pas dans quel hôtel vous me conseillerez de descendre pour être près de vous. » Elle hésita, puis reprit « Vous descendrez ici, dans la villa. Votre chambre est prête. Du reste, il peut mourir d'un moment à l'autre. Et si cela arrivait la nuit, je serais seul. J'enverrai chercher votre bagage. » Il s'inclina « Comme vous voudrez. » « Maintenant, montons, » dit-elle. Il la suivit. Elle ouvrit une porte au premier étage. Et Duroy aperçut auprès d'une fenêtre, assis dans un fauteuil et enroulé dans des couvertures, livide sous la clarté rouge du soleil couchant, une espèce de cadavre qui le regardait. Il le reconnaissait à peine. Il devina plutôt que c'était son ami. On sentait dans cette chambre la fièvre, la tisane, l'éther, le goudron, cette odeur innommable et lourde des appartements où respire un poitrinaire. Forestier souleva sa main d'un geste pénible et lent. « Te voilà, » dit-il. « Tu viens me voir mourir. Je te remercie. » Duroy affecta de rire. « Te voir mourir ? Ce ne serait pas un spectacle amusant, et je ne choisirais point cette occasion-là pour visiter Cannes. Je viens te dire bonjour et me reposer un peu. » L'autre murmura. « Assieds-toi. » Et il baissa la tête, comme enfoncé en des méditations désespérées. Il respirait d'une façon rapide, essoufflé, et parfois poussait une sorte de gémissement, comme s'il eût voulu rappeler aux autres combien il était malade. Voyant qu'il ne parlait point, sa femme vint s'appuyer à la fenêtre, et elle dit en montrant l'horizon d'un coup de tête « Regardez cela, est-ce beau ?» En face d'eux, la côte, semée de villas, descendait jusqu'à la ville qui était couchée le long du rivage en demi-cercle, avec sa tête à droite vers la jetée que dominait la vieille cité surmontée d'un vieux beffroi, et ses pieds à gauche à la pointe de la croisette, en face des îles de l'Hérence. Elles avaient l'air, ces îles, de deux taches vertes dans l'eau toute bleue. On eût dit qu'elles flottaient comme deux feuilles immenses, tant elles semblaient plates de là-haut. Et tout au loin, fermant l'horizon de l'autre côté du golfe, au-dessus de la jetée et du beffroi, une longue suite de montagnes bleuâtres dessinait sur un ciel éclatant une ligne bizarre et charmante de sommets tantôt arrondis, tantôt crochus, tantôt pointus, et qui finissait par un grand mont en pyramide plongeant son pied dans la pleine mer. Madame Forestier l'indiqua. C'est l'Estérel. L'espace, derrière les cimes sombres, était rouge, d'un rouge sanglant et doré que l'œil ne pouvait soutenir. Duroy subissait malgré lui la majesté de cette fin du jour. Il murmura, ne trouvant point d'autres termes assez imagés pour exprimer son admiration. « Oh, oui, c'est épatant, ça. » Forestier releva la tête vers sa femme et demanda « Donne-moi un peu d'air. » Elle répondit « Prends garde. Il est tard, le soleil se couche. Tu vas encore attraper froid et tu sais que ça ne te vaut rien dans ton état de santé. » Il fit de la main droite un geste fébrile et faible qui aurait voulu être un coup de poing et il murmura avec une grimace de colère, une grimace de mourant qui montrait la minceur des lèvres, la maigreur des joues et la saillie de tous les os. « Je te dis que j'étouffe. Qu'est-ce que ça te fait que je meure un jour plus tôt ou un jour plus tard, puisque je suis foutu ?» Elle ouvrit toute grande la fenêtre. Le souffle qui entra les surprit tous les trois comme une caresse. C'était une brise molle, tiède, paisible, une brise de printemps nourrie déjà par les parfums des arbustes et des fleurs capiteuses qui poussent sur cette côte. On y distinguait un goût puissant de résine et l'âcre saveur des eucalyptus. Forestier la buvait d'une haleine courte et fiévreuse. Il crispa les ongles de ses mains sur les bras de son fauteuil et dit d'une voix basse, sifflante, rageuse « Ferme la fenêtre, cela me fait mal. J'aimerais mieux crever dans une cave. » Et sa femme ferma la fenêtre lentement. Puis elle regarda au loin, le front contre la vitre. Du roi mal à l'aise, aurait voulu causer avec le malade, le rassurer. Mais il n'imaginait rien de propre à le réconforter. Il balbutia. « Alors, ça ne va pas mieux depuis que tu es ici ?» L'autre haussa les épaules avec une impatience accablée. « Tu le vois bien !» Et il baissa de nouveau la tête. Du roi reprit. « Sacristie, il fait rudement bon ici. Comparativement à Paris, là-bas, on est encore en plein hiver. Il neige, il grêle, il pleut, et il fait sombre à allumer les lampes dès 3 heures de l'après-midi. » Forestier demanda. « Rien de nouveau ? Au journal ?»« Rien de nouveau. On a pris pour te remplacer le petit lacrin qui sort du Voltaire, mais il n'est pas mûr. Il est temps que tu reviennes. » Le malade balbutia. « Moi ? J'irai faire de la chronique à 6 pieds sous terre maintenant. » L'idée fixe revenait comme un coup de cloche à propos de tout, reparaissait sans cesse dans chaque pensée, dans chaque phrase. Il y eut un long silence, un silence douloureux et profond. L'ardeur du couchant se calmait lentement et les montagnes devenaient noires sur le ciel rouge qui s'assombrissait. Une ombre colorée, un commencement de nuit qui gardait des lueurs de brasier mourant, entrait dans la chambre, semblait teindre les meubles, les murs, les tentures, les coins avec des tons mêlés d'encre et de pourpre. La glace de la cheminée, reflétant l'horizon, avait l'air d'une plaque de sang. Madame Forestier ne remuait point, toujours debout, le dos à l'appartement, le visage contre le carreau. Et Forestier se mit à parler d'une voix saccadée, essoufflée, déchirante à entendre. Combien est-ce que j'en verrai encore de couchers de soleil? 8, 10, 15 ou 20, peut-être 30, pas plus. Vous avez du temps, vous autres. Moi, c'est fini. Et ça continuera après moi, comme si j'étais là. Il demeura muet quelques minutes, puis reprit. Tout ce que je vois me rappelle que je ne verrai plus dans quelques jours. C'est horrible. Je ne verrai plus rien. Rien de ce qui existe. Les plus petits objets qu'on manie. Les verres, les assiettes, les lits où l'on se repose si bien. Les voitures. C'est bon de se promener en voiture, le soir, comme j'aimais tout ça. Il faisait, avec les doigts de chaque main, un mouvement nerveux et léger, comme s'il eût joué du piano sur les deux bras de son siège, et chacun de ses silences était plus pénible que ses paroles, tant on sentait qu'il devait penser à d'épouvantables choses. Et du roi, tout à coup, se rappela ce que lui disait Norbert de Varenne quelques semaines auparavant. « Moi, maintenant, je vois la mort de si près que j'ai souvent envie d'étendre le bras pour la repousser. Je la découvre partout. Les petites bêtes écrasées sur les routes, les feuilles qui tombent, le poil blanc aperçu dans la barbe d'un ami me ravage le cœur et me crie « La voilà !» Il n'avait pas compris ce jour-là. Maintenant, il comprenait en regardant Forestier. Et une angoisse inconnue, atroce, entrait en lui comme s'il eût senti tout près, sur ce fauteuil où haletait cet homme, la hideuse mort à portée de sa main. Il avait envie de se lever, de s'en aller, de se sauver, de retourner à Paris tout de suite. Oh, s'il avait su, il ne serait pas venu. La nuit maintenant s'était répandue dans la chambre comme un deuil hâtif qui serait tombé sur ce moribond. Seule la fenêtre restait visible encore, dessinant, dans son carré plus clair, la silhouette immobile de la jeune femme. Et Forestier demanda avec irritation « Eh bien, on n'apporte pas la lampe aujourd'hui. Voilà ce qu'on appelle soigner un malade. » L'ombre du corps qui se découpait sur les carreaux disparut, et on entendit tinter un timbre électrique dans la maison sonore. Un domestique entra bientôt, qui posa une lampe sur la cheminée. Madame Forestier dit à son mari « Veux-tu te coucher ? Ou descendras-tu pour dîner ?» Il murmura « Je descendrai. » Et l'attente du repas, les fit demeurer encore près d'une heure immobile, tous les trois, prononçant seulement parfois un mot quelconque, inutile, banal, comme s'il eût du danger, un danger mystérieux à laisser durer trop longtemps ce silence, à laisser se figer l'air muet de cette chambre où rôdait la mort. Enfin, le dîner fut annoncé. Il sembla long à Duroy, interminable. Il ne parlait pas, il mangeait sans bruit, puis émiettait du pain du bout des doigts. Et le domestique faisait le service, marchait, allait et venait sans qu'on entendît ses pieds, car le bruit des semelles irritant Charles, l'homme était chaussé de savates. Seul le tic-tac dur d'une horloge de bois troublait le calme des murs, de son mouvement mécanique et régulier. Dès qu'on eut fini de manger, Duroy, sous prétexte de fatigue, se retira dans sa chambre et, accoudé à sa fenêtre, il regardait la pleine lune au milieu du ciel. Comme un globe de lampe énorme, jeté sur les murs blancs des villas, sa clarté sèche et voilée, et semée sur la mer une sorte d'écaille de lumière mouvante et douce. Et il cherchait une raison pour s'en aller bien vite, inventant des ruses, des télégrammes qu'il allait recevoir, un appel de M. Walter.